Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Nous, on va passer un excellent 60 minutes, puisqu'encore une fois, ce soir, mon invité est un invité de feu. Son nom, c'est Joël Monzé. Il est docteur en neurosciences. C'est un gars que j'adore, qui accepte assez souvent des entrevues sur les ondes de Boulevard avec moi. C'est un plaisir de lui jaser à chaque fois. Salut, Joël!
Salut, salut, c'est partagé le plaisir.
C'est quoi un docteur en neurosciences, Joël? Ça a l'air compliqué.
En fait, les neurosciences, ce sont tous les domaines qui étudient le cerveau. Donc, ouais. Ça peut aussi bien aller dans le domaine médical, comme la neurologie, par exemple, ou la psychiatrie, ouais. Mais ça peut aller dans le domaine de l'intelligence artificielle, en passant par des nouvelles méthodes d'entraînement sportif, en passant par l'ergothérapie, en passant par la psychologie, l'éducation. Parfois, on parle de neuroéducation, donc on essaie de voir justement comment est-ce qu'on peut faciliter les processus d'apprentissage chez nos jeunes pour faire en sorte qu'ils apprennent mieux, d'accord, ou avec moins de détresse tel qu'on peut le voir malheureusement chez certains jeunes.
OK. OK. Puis toi, tu es vraiment très près de l'éducation aux enfants. Ça semble être une partie de toi qui semble être sensible à l'égard des enfants.
Oui, tout à fait. Puis je te dirais que ça fait une vingtaine d'années que je donne des formations dans les différents milieux scolaires, mais j'en donne aussi dans les milieux de la santé, pour la santé publique, dans les CPE. Ce qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est est-ce qu'on peut mettre en place un environnement, en fait, qui est propice à l'épanouissement de l'enfant, de l'ado, mais aussi de l'adulte, parce que nous, comme parents ou comme intervenants, on a le goût d'être heureux, on a le goût que les jeunes qu'on accompagne ou dont on est parent soient heureux. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans notre société? Comment organiser notre société pour faire en sorte justement que notre part de bonheur soit de plus en plus grande et peut-être un peu plus détachée en fait du matérialisme pour pouvoir trouver peut-être un bonheur un peu plus simple.
Ouais. Je ne sais pas si tu avais vu passer cet article-là. Je sais que ça a été dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. J'ai vu aussi sur TVA Nouvelles cet article-là où on mentionnait qu'en raison de la pandémie, il y avait près d'un garçon sur cinq qui avait abandonné ses études secondaires. Et dans certaines régions du Québec, on parle d'une proportion qui s'élève même à plus de 30%. Puis je me suis passé comme réflexion, mais les journalistes, est-ce qu'ils sont conscients? C'est pas en raison de la pandémie, c'est probablement en raison des décisions du gouvernement qui n'étaient pas pareilles comme les décisions des autres gouvernements par rapport à l'éducation. C'est probablement en raison des décisions du gouvernement de fermer les écoles que ces jeunes-là ont abandonné leur secondaire. Mais c'est pas en raison de la pandémie.
Mais en fait, c'est la manière dont on a voulu préserver les personnes les plus vulnérables, quel que soit leur âge, en fonction d'un virus qui inquiétait énormément la population. Puis je t'entendais dire que les mesures du gouvernement, j'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec Lionel Carman et surtout Jean-François Roberge à travers toute la pandémie, pour essayer de trouver des stratégies justement pour prévenir ce décrochage-là. Parce que Égide Royer, moi, les présidents des ordres professionnels, on faisait partie de comités qui étaient régulièrement consultés. Puis on savait que ça allait s'en venir parce que, en force de maintenir nos jeunes en fait, dans un état où ils sont chez eux, où les jeunes qui étaient dans une classe qui fonctionnait ou qui fonctionnait pas, selon s'il y avait eu un cluster ou non dans leur classe, les enseignants, puis je ne vais faire aucune critique par rapport à ce que je nomme, mais c'est quand même une réalité. Je prends l'exemple, en fait, de mes deux grands qui étaient en secondaire 4 en 2020. Veux pas, ils ont arrêté d'aller à l'école le 13 mars, d'accord? Ils étaient censés reprendre la matérielle de 4e secondaire à partir du mois de septembre. Mais le professeur, lui-même pris par son émotion, parce qu'il connaît et ainsi de suite, mais ils ont recommencé en fait comme si la 4e secondaire avait été vue en son entier. Donc, ils ont démarré directement le programme de secondaire 5 et mes deux jeunes commençaient à faire des pré-tests d'examen du ministère au mois de décembre. Donc, ils étaient dans une performance. Alors, pour eux deux, comme c'est des jumeaux jumelles, comme ils fonctionnent bien, qu'ils sont dans un environnement familial qui est serein, ça n'a pas posé de difficultés. Mais ceux qui ont été bousculés parce que papa et maman ont vécu des choses difficiles, parce qu'il y a peut-être eu un peu plus de problématiques dans leur famille ou autour d'eux ou dans l'école, il y a peut-être eu plus d'arrêts d'école, veut pas, mais ça peut avoir eu un impact majeur. Et quelque part, on a aussi dit aux jeunes, écoute, je ne sais pas si tu te souviens, pendant le printemps 2020, on a dit aux jeunes, hey, jouer aux jeux vidéo, vous allez sauver des vies. Le problème, c'est qu'après, en se détacher des jeux vidéo ou se détacher des réseaux sociaux par lesquels les jeunes ont commencé à être en interrelation, y compris à l'étranger,
Ouais.
d'accord? Parce que parfois, le réseau social se fait en sorte que des jeunes ont des amis aux États-Unis, en Australie, en France, en Allemagne, d'accord? Donc, se détacher des réseaux sociaux, se détacher des jeux vidéo, c'est quelque chose de difficile. Et quelque part, quand tu vois le taux d'agressivité que même les adultes vivent aujourd'hui au quotidien, quand tu vois comment les gens peuvent réagir dans les magasins, comment certains employés peuvent réagir, l'agressivité qu'on retrouve au niveau de la conduite automobile, j'ai jamais vu ça de ma vie, à quel point les gens ont une conduite erratique, d'accord? Ben, veux pas, si les adultes ne vont pas bien, les jeunes n'iront pas bien. Donc, à ce moment-là, à un moment donné, le jeune n'arrive plus à s'adapter à l'environnement scolaire, puis il dit merci, bonsoir, je m'en vais.
Est-ce que si c'était à refaire avec ce qu'on voit là, comme résultat pour ce qui est de nos jeunes et toutes les statistiques, est-ce que si c'était à refaire, on referait à peu près la même chose au niveau du gouvernement par rapport à l'éducation pendant qu'il arrive une pandémie? Parce qu'il y en aura certainement d'autres pandémies. On ne pensait pas vivre ça, toi et moi, de notre vivant, ce type de pandémie-là, mais il y en aura probablement d'autres dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. On ne se le souhaite pas, mais il doit y avoir des écrits de tout ça, de ce qui s'est passé, des bons coups qu'on a réalisés versus les coups qu'on a faits qui ça serait peut-être à revoir. Est-ce que tu as l'impression que si ça arrive demain matin, le gouvernement referait les mêmes choses dans le même ordre, puis on aurait le même résultat auprès de nos enfants qui ont décroché?
Mais j'ai envie de te dire, probablement que si on repart dans une campagne de peur bien orchestrée telle qu'elle a été orchestrée par certains experts, probablement que oui, le gouvernement pourrait vouloir repartir dans des mesures extrêmes. C'est tu sais, quelque part, je ne sais pas si tu te souviens, mais au printemps 2020, la Belgique et le Québec n'étaient pas nécessairement alignés sur ce que la France faisait. Et il y a eu deux phénomènes à ce moment-là. Le premier, ici au Québec, ça a été les journalistes qui ont beaucoup comparé ce que M. Macron ordonnait en France et que nous, on n'ordonnait pas, notamment les fameux masques auxquels Horacio Arruda s'est objecté pendant des semaines et des semaines. Et dans un deuxième temps, ce qui s'est passé en Belgique, c'est que Sophie Hulmès a été accusée par cinq cabinets d'avocats de non-assistance à personne en danger. Donc, à la fois des pressions médiatiques et des pressions juridiques sur un gouvernement, mais ça force le gouvernement parfois à faire des mesures qui nous paraissent nous exagérées en termes de gros bon sens, mais dans une dynamique de panique générale telle que beaucoup de gens le vivaient. Vous vous rappelez en fait qu'au printemps, il y a eu presque 10 000 morts, notamment chez les personnes âgées. On a eu des problèmes dans les CHSLD, surtout les CHSLD privés. Donc peut-être que dans un contexte comme celui-là, oui, malheureusement, on repartirait sur une dynamique de fermeture parce que la volonté de préserver les personnes les plus, comment dire, vulnérables sur le plan immunitaire va primer éventuellement sur la réussite scolaire. Cela dit, ce qui s'est passé pendant la pandémie nous a alertés énormément et le gouvernement est très actif. Je pense à Lionel, je pense aussi à Bernard Drinville de son côté qui a récupéré plusieurs dossiers que Jean-François Roberge avait mis de l'avant. La nécessité d'intervenir autrement auprès de nos enfants. Écoute, ça paraissait une bibite bizarre il y a quelques années quand je parlais de bienveillance et de transformation de notre manière de faire l'éducation et d'enseigner aux enfants. Alors que maintenant, c'est devenu quelque chose d'assez généralisé à tel point, c'est que on utilise mal le concept de bienveillance qu'on confond avec la non-intervention. D'accord, mais il n'y a plus personne qui actuellement remet vraiment en question le concept de donner des conditions favorables à la réussite en travaillant sur le bien-être de nos élèves et le bien-être de nos enseignants et des personnels qui sont autour d'eux. Donc, tu sais, il y a aussi des avantages d'avoir été un peu trop loin, peut-être, dans la rupture des liens entre les différentes personnes.
Ouais, je crois pas qu'on ait le pire système d'éducation, je crois pas qu'on ait le meilleur non plus, mais est-ce qu'on s'inspire d'ailleurs? Tu sais, toi, quand t'arrives, puis tu discutes avec le gouvernement en tant que docteur en neurosciences, spécialiste en éducation, parce que t'es constamment là-dedans depuis des années et des années, est-ce que tu te sens écouté ou c'est difficile de faire bouger les choses dans le merveilleux monde de l'éducation parce que des gens qui sont là en position de force, des fonctionnaires qui disent, ben nous, fait 10-20 ans qu'on est ici, ça fait 10-20 ans qu'on fait la même chose. On considère que c'est pas si pire que ça, puis on bougera pas. Puis les nouveautés que vous voulez amener de l'extérieur, qui fonctionnent bien ailleurs, on n'est pas très ouvert à voir ça. Tu sens-tu une certaine résistance?
Je sens plus de résistance dans le monde universitaire que dans le monde des écoles ou dans le
Ah
monde
ouais.
du ministère.
OK.
Tu sais, les chercheurs, parfois, ils s'accrochent dur comme fer à leur théorie, à leur école de pensée, à leur manière de concevoir l'éducation ou l'enseignement, la pédagogie, la didactique. Et parfois, c'est difficile de pouvoir ramener en fait l'enfant au cœur de nos préoccupations d'adultes. Donc, je vois plus de résistance au niveau universitaire. Ça ne veut pas dire que les théories qui sont développées par les universitaires ne sont pas intéressantes, mais il faut beaucoup nuancer. Chaque théorie a ses avantages et ses inconvénients, et il faut arriver à avoir suffisamment de nuances pour, comme je disais tantôt, remettre l'élève au cœur du processus d'apprentissage. Et en même temps, si les adultes ne vont pas bien, ben c'est certain qu'ils vont avoir de la difficulté à se remettre en question, que ce soit un enseignant, un parent, un fonctionnaire, un universitaire. Ce sont des réflexes, comment dire, traditionnels que l'on va avoir. On a tous une résistance au changement d'une manière traditionnelle, mais quand on se sent pas bien, quand on se sent nous-mêmes en danger ou qu'on reste un peu traumatisé ou impacté par la pandémie ou par d'autres peurs qui pourraient nous envahir, mais c'est certain que notre résistance au changement est beaucoup plus grande.
OK. Est-ce que, parce que c'est particulier, que tu sentes une résistance au niveau des chercheurs universitaires, parce que la base de la science est de constamment la remettre en jeu, de constamment challenger nos hypothèses, tu sais, d'essayer peut-être de trouver des failles dans les hypothèses pour pouvoir faire progresser la science, parce que la science, c'est pas une photo, là. Tu sais, une fois qu'on a décidé quelque chose, ça restera pas comme ça infiniment, tu sais. Einstein a été challengé plusieurs fois, tu sais, mais pourtant, la théorie de la relativité, c'est encore bon, ça, mais on a dû la challenger plusieurs fois avant de voir que cette théorie-là était effectivement une excellente théorie.
Mais il y a toujours, tu sais, la science, elle veut parfois tout monitorer, tout mesurer. Il y a un réflexe très matérialiste parfois dans la science, dans le sens que parfois le gros bon sens ne fonctionne pas tant et aussi longtemps qu'on ne l'aura pas mesuré. Comme moi, j'ai fait de la clinique pendant des années en parallèle avec ma carrière scientifique, c'est certain que je suis toujours parti du principe, quand j'ai un de mes patients qui remet en question ma belle théorie, ben j'oublie ma théorie, je m'occupe du patient. Mais si j'étais uniquement dans un laboratoire, que je n'étais pas en contact permanent avec la vraie vie, que ce que des jeunes vivent en classe dans le cadre de mes recherches appliquées ou des patients que j'ai accompagnés en psychothérapie pendant des années, mais peut-être que oui, je serais plus facile pour moi de rester accroché à mes connaissances et à ce à quoi je crois. Je te dirais que pendant que j'ai fait mon doctorat,
Ouais.
J'étais le premier au monde à avoir trouvé des cellules qui répondaient à l'émotion et au processus attentionnel dans le cervelet, mais ça remettait tellement en question les théories de mon patron et de son meilleur ami, qui étaient deux des trois chercheurs les plus renommés sur le plan international au niveau du cervelet, que je n'ai jamais pu publier comme telles mes données. Elles sont là, il faut comprendre, il faut lire entre les lignes parce qu'il y a une négociation avec mon patron, d'accord? Mais dans ma thèse, j'ai été un peu plus loin, puis j'étais entre guillemets un peu protégé par mon président de jury qui lui m'a appuyé parce qu'il était d'accord avec mon point de vue. Mais du jour où j'ai commencé à en parler, mon patron n'a plus voulu lire ma thèse. D'accord? Donc il y a une résistance. Puis j'adore mon patron, j'ai appris des choses avec lui extraordinaires. D'accord? Mais il y a des points de friction, il y a des points de résistance. Et à partir de là, tu sais, il n'y a aucun article non plus scientifique parfois qui sort vivant d'un club de lecture parce que le club de lecture, c'est qu'on se réunit entre plusieurs chercheurs, en fait, souvent des étudiants et des professeurs, et on passe à travers un article et on essaie de voir toutes les failles de cet article-là. Donc tous les articles, y compris ceux que j'ai écrit, passent à la moulinette et se font démolir de A à Z. C'est ça, comme tu dis, la science. On évolue parce que on remet en question les théories ou
Exact.
les idées qui ont été développées par d'autres. Mais quand ce sont ces théories à soi, il peut y avoir une résistance un peu plus grande, surtout quand tu es renommé sur le plan international, pour justement la théorie que tu as développée depuis 10, 15, 20 ou 30 ans.
OK. J'ai le goût de jaser d'un autre sujet avec toi parce qu'à ce moment-là, on n'était pas en onde, toi et moi, mais tu te souviens des images de ce père qui s'est présenté dans une école secondaire pour défendre son fils. Bon, il y a des gens qui ont jugé ce père-là. Il y en a d'autres qui ont dit, ben, j'aurais fait peut-être la même chose. Moi, je ne suis pas dans le jugement, je suis dans la compréhension et je pense que quand tu n'as plus de ressources, quand tu as essayé plein de choses avec ton enfant, avec l'école, avec les parents, d'un autre individu qui intimide ton enfant, je pense que tu dois être dépourvu et extrêmement émotif. Puis parfois, tu fais des choses que tu ne devrais pas faire, comme ce père qui s'est présenté à l'école pour se faire justice lui-même et qui s'est mis dans le trouble. C'est comme si, avec cette histoire-là, quand on l'a rapporté dans les médias, c'est comme quelqu'un qui avait botté un nid d'abeilles qui traînait par terre. Puis là, ben, il y a énormément de gens qui sont sortis en disant « Mais nous aussi, nos enfants sont victimes d'intimidation au Québec, nous, au secondaire. Nous aussi, on a tenté de faire des démarches avec l'école, on a tenté de faire des démarches avec le parent de l'élève intimidateur. Ça ne s'est pas réglé. Les dommages que ça peut faire chez les enfants. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas des Joël Mosé qui se présentent dans les écoles primaires ou secondaires, où il n'y a pas des policiers, des policières spécialistes avec les enfants ou des éducateurs spécialisés ou des psychologues qui vont donner des outils pour faire face à l'intimidation? On ne pourra jamais l'enrayer, Joël, l'intimidation. On en a déjà jasé, toi et moi. L'intimidation, elle est partout. Elle est dans la nature. Elle est quand on est enfant. Elle est quand on est au primaire, au secondaire. Elle est au cégep. Elle est à l'université. Puis elle est dans le merveilleux monde du travail. Puis elle est dans tous les sports, l'intimidation, sous diverses formes. Pourquoi on n'outille pas nos enfants pour faire face à l'intimidation? Puis on s'assure tout le temps que ce soit des adultes qui règlent les problèmes pour les enfants, alors que les enfants sont capables d'acquérir des... Tu m'excuseras le mot, là, mais des habiletés... Ouais, j'allais dire des skills, mais tu sais, des habiletés à faire face à l'intimidation puis lutter eux-mêmes contre l'intimidation. Pourquoi on ne met pas l'accent sur l'éducation avec nos enfants concernant ce sujet-là?
En fait, comme tu le disais, malheureusement, l'intimidation, ça fait partie de notre société. Regarde les duos de comiques, que tu regardes les Denis de Relais, Laurel et Hardy, les quatre Dalton, tu as le plus petit qui est tout le temps en train d'intimider le plus grand, à tort ou à raison, d'accord, c'est certain que le plus grand fait niaiserie sur niaiserie, Laurel fait niaiserie sur niaiserie. Et malheureusement, notre société, elle fonctionne beaucoup. Quand on parlait de la période de la pandémie, combien de fois est-ce qu'on n'a pas encouragé la délation, par exemple? On n'a pas encouragé des rapports de force permanents? C'est toute notre société qui doit changer de A à Z. Et le problème, c'est que nos jeunes... En fait, bien souvent, ils imitent ce qu'ils voient à l'extérieur, ils imitent ce qu'ils voient chez les adultes, ils imitent ce qu'ils voient dans leurs jeux vidéo, à la télévision ou ailleurs. On va passer des heures et des heures à regarder Occupation Double, alors que là aussi, souvent, il va y avoir différents phénomènes d'intimidation, même si quand ça dégénère ou ça va un peu trop loin, il y a peut-être éventuellement une intervention qui va se faire, mais ça reste quand même que les reality shows sont basés sur ce genre de dynamique parce que ça fait vendre, parce que ça fait que les gens vont regarder. C'est toute notre société qui doit arriver à prendre conscience que ça suffit. Et c'est peut-être des situations malheureuses comme celle du papa ou celle de Mme Gingras qui a expliqué les cas de sa fille à la télévision, même si son enfant a vécu, c'est ça date d'il y a une petite dizaine d'années. Mais ça reste quand même que oui, il y a une transformation de notre société qui doit se faire. Et puis quand je parle tantôt de bienveillance, c'est certain que si nous nous positionnons dans une posture de bienveillance envers les gens qui sont autour de nous, que ce soit nos enfants, que ce soit nos collègues, que ce soit les gens auxquels on va croiser en fait dans la rue ou quand on est dans une activité X, Y, Z et qu'il y a quelqu'un qui nous dérange, si on arrive en fait à être dans une posture de bienveillance, notre manière d'interagir avec l'autre va peut-être changer les choses. Et c'est peut-être que d'ici une génération ou deux, on pourrait peut-être avoir une autre société.
Est-ce qu'il faut l'accepter que l'intimidation s'enrayera jamais au primaire, au secondaire, à l'âge adulte? Il faut l'accepter à un moment donné parce que très souvent, je vois des gens qui sortent dans les médias pour dire il faut condamner l'intimidation, il faut que l'intimidation disparaisse, alors qu'on sait qu'elle ne disparaîtra jamais. Il va falloir l'accepter à un moment donné. La dénonciation n'est pas toujours la solution. Il faut outiller nos enfants à faire face aux intimidateurs. Et tu sais quoi? Il faut comprendre pourquoi aussi l'intimidateur en est un et qui est ce type de personne-là. Puis, je sais pas, moi, advenant le cas où je suis un intimidateur puis je suis pas au courant, parce que ça peut arriver, on est au secondaire, on veut jouer au tough, on veut montrer qu'on s'en laisse pas imposer, puis quand il y a des plus faibles, on aime ça les écœurer, puis on est achalant et tout ça. Être dans un amphithéâtre où je vois un policier ou une policière ou un docteur en neurosciences ou encore un éducateur spécialisé qui raconte ben, l'histoire des intimidés, pourquoi il y a de l'intimidation, qui nous dit qui sont les intimidés puis pourquoi ces gens-là se font constamment intimider même s'ils changent d'école, puis qui nous disent ben, qui sont les intimidateurs puis pourquoi c'est devenu des intimidateurs avec le temps. En tant qu'intimidateur au secondaire, je me dis, OK, c'est de moi qui parle. Parce que moi aussi, j'ai vécu ces étapes-là. OK, je suis un intimidateur, mais je n'avais jamais vu ça comme ça. Ce serait plus brillant comme façon d'agir plutôt que de constamment dire, demandez à un adulte, demandez à votre patron, plaignez-vous à cet ordre-là, plaignez-vous à cet endroit-là.
Mais en fait, comme je disais tantôt, il faut changer de paradigme dans notre manière d'être les uns avec les autres. Si j'ai acquis assez de confiance en moi, assez d'assurance en moi, qu'il y a quelqu'un qui se moque de moi, ça va glisser comme de l'eau sur une toile cirée. Donc, si on travaille en fait avec la personne qui a un potentiel justement d'être isolée, d'être intimidée, d'être rejetée par d'autres personnes, et qu'on arrive en fait à lui permettre de développer suffisamment de confiance en lui ou en elle, mais automatiquement, probablement, qu'elle sera beaucoup moins dans des situations problématiques. La même chose, l'intimideur. Souvent, on va lui coller cette étiquette-là, mais on ne naît pas intimideur. On le devient. Donc, qu'est-ce qui a amené ce jeune-là à devenir un intimidateur? Tu sais, parfois, on va voir des témoins qui vont à leur tour intimider d'autres élèves parce qu'ils vont essayer de s'acoquiner avec celui qui semble être le plus alpha dans le groupe, de manière à échapper là aussi à différentes formes d'intimidation en intimidant les autres. Tu sais, c'est une manière. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, c'est qu'il y a une transformation. Et le problème, c'est que souvent, on étiquette les gens. Toi, t'es A, toi, t'es B, toi, t'es C. La personne devient cette étiquette-là. Et en devenant cette étiquette-là, on rejoue continuellement, en fait, ce jeu-là sur la scène publique. Il y a Guy Corneau qui disait que nous étions l'acteur principal du film dans lequel nous jouons ou de la pièce de théâtre dans laquelle nous jouons. Les autres ne sont que les acteurs secondaires, c'est-à-dire qu'ils nous mettent en valeur. Donc, à partir du moment où moi, je prends conscience, c'est quoi les forces et les défis de mon personnage, mais je peux peut-être changer de personnage. Mais pour ça, il faut amener le jeune à prendre conscience, comme tu disais tantôt, de pouvoir Ah, ok, c'est ça qui se passe, ou c'est ça que je ressens, donc ça correspond à ceci ou à cela, donc je vais amener un changement dans mon comportement. Mais il faut donc changer notre manière de fonctionner avec nos jeunes. Et je vais revenir à partir du moment où on glorifie bien souvent l'intimidation à l'intérieur des duos comiques, dans les films ou dans des jeux ou dans les réseaux sociaux. C'est difficile pour le jeune de faire la part des choses et quelque part, malheureusement, ben, il va reproduire éternellement ou tout au moins très longtemps, malheureusement, le même type de comportement. Donc, si nous changeons notre manière d'être avec nos jeunes, si nous changeons notre manière de faire de la discipline, tu sais, quand tu fais les gros yeux à tes enfants, ce n'est pas nécessairement de l'intimidation, mais tu envoies un message clair à ton jeune que là, il est peut-être en train de franchir une limite. Mais ton jeune, il sait que tu l'aimes, il sait que tu es son papa d'amour, il sait qu'il peut avoir confiance en toi. Il vient juste d'être marqué par un signal que tu viens de lui donner. Oh, là, le comportement que tu viens d'avoir, ce n'est pas un comportement que je m'attends de toi. D'accord? Donc, tu vas donner une limite aux jeunes. Mais les jeunes qui n'ont jamais reçu de limites ou qui ont reçu des limites abusives vont avoir une manière de percevoir l'environnement dans lequel ils sont qui est complètement erronée. Et c'est ça qui, malheureusement, sert en fait de, comment dire, de terreau à l'intimidation.
Comment un enfant acquiert la confiance en lui? T'sais, constamment, j'essaye le plus possible d'encourager mes garçons. Quand ils font de bonnes choses, je les félicite. Quand ils font des mauvaises choses, je les gronde à ma manière. T'sais, moi, j'ai la chance d'avoir des enfants qui, tout fit, là, t'sais, sont pas obèses, ils ont pas des boutons sur le nez, ils ont pas un gros nez, les yeux sont à la bonne place. Physiquement, c'est correct. Puis je vois qu'il y en a un qui est un peu plus humoriste, drôle, donc t'sais, il fait rire tout le temps la classe. Puis j'en ai un autre qui est un peu plus sérieux, un peu plus studieux. Puis je sais que les deux, pour l'instant, ça semble bien aller à l'école, puis ils semblent avoir confiance en eux. Mais pour moi, de mettre une confiance dans mes enfants, c'était pas inné, là. Je veux dire, on n'y a pas. Il n'y a pas un mode d'emploi de parents qui dit « Voici comment donner confiance à vos enfants. » J'essayais d'y aller à tâtons, puis je les félicitais quand ils faisaient des bons coups. Puis ça semble, pour l'instant, ils sont encore très jeunes, là, 11 ans et 8 ans aujourd'hui, d'ailleurs, Isaac. Ils sont encore très jeunes.
Bon anniversaire.
Ben oui, j'ai dit ça ce matin, il était content. J'ai dit « Félicitations pour ton 5 ans. » Là, il était fâché. Il a dit « J'ai 8. Je suis un homme. » Mais tu sais, pour l'instant, ça va bien au niveau de la confiance en eux. Mais pour les parents qui s'aperçoivent que leur enfant, 4, 5, 6 ans, constamment en train de regarder les parents pour voir s'il fait les bonnes choses, semble craintif quand les autres amis arrivent dans un espace clos. Qu'est-ce qu'on fait pour établir une confiance pour nos enfants?
En fait, ce que l'on fait, c'est que dès que le bébé va naître, d'accord, c'est notre qualité, c'est notre présence parentale. Plus le bébé se sent en sécurité avec son parent, et éventuellement les personnes qui prennent soin de lui si papa ou maman ne sont pas disponibles, plus le bébé va créer à l'intérieur de lui ce qu'on appelle des gabarits de sécurité. Et plus il se crée des mémoires, ou moi j'appelle ça des gabarits, plus il y a de mémoires de sécurité, et plus il est capable à ce moment-là, en fait, de pouvoir faire la part des choses entre les différentes situations dans lesquelles il va grandir. Donc un enfant qui grandit dans un environnement où le parent offre le meilleur de lui et crée vraiment ce sentiment de sécurité, ça fait en sorte que l'enfant va oser. À partir de là, ça va être à lui d'intérioriser aussi la sécurité. Il va faire des bons coups, des mauvais coups, il va tomber, il va se relever. Et si à chaque fois qu'il tombe, il sent que son parent est là, non pas pour faire les choses à sa place, mais pour l'aider à se relever, pour l'encourager à se relever, à ce moment-là, là aussi, ça développe une certaine confiance. Le problème, c'est que nous, comme parents, on n'est peut-être pas toujours disponible. Peut-être que parfois, comme parents, on a développé nous-mêmes des situations, on a vécu en fait des situations d'abus dans notre vie, ce qui fait que notre manière de nous attacher, notre manière d'entrer en relation avec l'autre, ça crée en fait une ambiguïté. Donc, au lieu d'avoir un attachement sécure, l'enfant nous sent ambigu, nous sent un peu mal, nous sent stressé, nous sent pas bien, nous sent peut-être un peu trop sur notre téléphone, d'accord, qui est une manière d'échapper à la réalité. Et à ce moment-là, ben, au lieu de développer un attachement sécure avec nous, le parent, il va développer un attachement anxieux ou un attachement évitant, ou voir si malheureusement papa et maman n'arrivent vraiment pas à fonctionner de manière adéquate avec leur enfant, il peut devenir, ça peut être un attachement qui va être complètement désorganisé. Cela dit, il y a des enfants mal partis parce que papa et maman vivent des choses difficiles et ça fait partie de la vie, mais ils vont rencontrer une éducatrice extraordinaire au CPE avec laquelle ils vont pouvoir développer éventuellement un attachement sécure avec elle. Ils vont peut-être rencontrer des professeurs géniaux avec, là aussi, ils vont développer d'autres formes d'attachement. Tu sais, quelque part, moi, j'ai grandi dans une famille dysfonctionnelle. On ne peut pas dire que les figures d'attachement que j'ai eues quand j'étais enfant sont inspirantes, loin de là. J'essaie d'être exactement l'opposé de ce que j'ai reçu de la part de mes parents. Par contre, j'ai rencontré tout au long de ma scolarité, tant au primaire qu'au secondaire, des enseignants extraordinaires, des directions d'école extraordinaires. Et ça a été, pour moi, ces figures d'attachement-là dans lequel je me sentais en sécurité, qui ont fait en sorte que j'ai développé un sentiment de confiance. Un autre élément qui m'a beaucoup aidé aussi, d'accord, c'est le fait de m'impliquer dans des causes humanitaires. Donc, j'ai commencé à découvrir ça à partir de ma 6e année primaire, d'accord, où je me suis embarqué dans des projets humanitaires. Je me suis rendu compte que ça donnait du sens à ma vie. Eh bien, c'est peut-être pas étonnant qu'aujourd'hui, de manière bénévole, ben, je travaille sur différents comités de ministères ou de cabinets du ministre pour pouvoir justement essayer d'offrir mon expertise pour pouvoir contribuer à développer et à consolider le bien commun. Donc, pour moi aussi, c'est une manière de faire. Donc, quand les écoles embarquent nos jeunes à développer, le sentiment d'exister, de faire des bonnes choses dans un projet humanitaire, c'est génial. Si on est dans une équipe de sport et que, oui, le résultat est important, on veut gagner le championnat, mais que le coach, il travaille avant tout l'effort, la collaboration à l'intérieur de l'équipe, l'esprit d'équipe. Donc, on va travailler sur les valeurs plus que sur le résultat. Là aussi, ça va consolider le jeune parce que, hey, je suis pas tout seul, on est une équipe, on est un team. Je me souviens par exemple dans mon adolescence, il y a eu des jeunes avec lesquels au début de mon secondaire, il y a eu beaucoup de tensions comme tous les jeunes vont vivre en première et deuxième secondaire. Ce sont les deux années les pires en termes d'intimidation, ce que je trouve, ce que j'ai vécu comme enfant et ce que j'ai vu comme spécialiste, d'accord. Mais C'est curieux que plus tard, quand on joue dans la même équipe de soccer, puis moi c'était du soccer, mais ça pourrait être du hockey, ça pourrait être un autre sport, mais quand on est autour d'un ballon et qu'on essaye de gagner, il n'y a plus d'intimidation, il y a une volonté de travailler ensemble. Donc si on travaille ensemble, qu'on amène nos jeunes en fait à fonctionner ensemble pour pouvoir atteindre des objectifs, on peut faire des projets dans la classe. Dans l'intérieur d'un projet, chacun a son rôle. Et donc, on n'est pas en concurrence les uns les autres. On peut avoir une émulation. Donc, si je trouve, tu sais, j'imagine que ça doit t'arriver de regarder tes collègues à la radio ou à la télévision, de dire, ah, wow, c'est génial ce genre de questions-là. Et tu t'inspires de ton collègue. Il y a d'autres collègues qui vont s'inspirer de toi, au même titre que je peux m'inspirer de toi quand je fais mes entrevues pour mes actions professionnelles. D'accord? Donc, si on est dans une émulation et pas dans une compétition, à ce moment-là, on change la dynamique. C'est-à-dire qu'on utilise des ressources qui sont là, mais on les canalise vers quelque chose de constructif. Et en les canalisant de manière constructive, ben, on n'a plus besoin d'aller embêter notre voisin.
Ouais. Ah, écoute, c'est de très bonnes idées que tu donnes. Moi, quand j'ai vu, pour en revenir aux images de ce père qui tente de défendre son enfant à l'école secondaire parce qu'il ne semble plus être capable de comprendre qu'à l'instant présent, il est en train de faire quelque chose qui n'a pas de bon sens. Il a tout essayé. Il voit son enfant souffrir chaque jour, démoli chaque jour, à chacun de ses retours, à la maison. La dame dans l'article de TVA Nouvelle, c'est la même chose. Sa jeune fille est arrivée à la maison constamment démolie. Ça doit être atroce. Puis je me souviens, Joël, puis j'imagine que c'était comme ça aussi en Europe, quand il y avait des intimidés à l'école, souvent les gens disaient, ben, inscris-les à la boxe, inscris-le au karaté. Pour certains, ça pouvait peut-être fonctionner. Moi, ce qu'on m'avait expliqué, c'est qu'à partir du moment où le jeune sait qu'il est capable de se défendre, ça lui fait déjà une confiance en lui. Donc, déjà là, juste en ayant confiance en lui, il y avait moins de gens qui étaient tentés de l'intimider parce qu'il disait régulièrement aux gens, ben, je fais du karaté ou je fais de la boxe, je fais un sport de combat. Moi, ce que je trouve génial, c'est le sentiment d'appartenance à une équipe, que ce soit une équipe de hockey ou que ce soit une équipe de football et tout ça. C'est vrai qu'on intègre tout le monde dans une équipe et gagner ensemble, je veux dire, on est tous ensemble. Quand on gagne, il faut gagner ensemble. Puis les réjouissances aussi, on se serre tous dans nos bras. Fait que ça valorise les enfants qui sont peut-être un peu moins bons à ce sport, mais ils ont gagné quand même la médaille d'or. Ils l'ont gagné en gang. Donc la confiance se prend en même temps, tu sais.
Oui, tout à fait. Et c'est, tu sais, parfois aussi quand on note continuellement nos jeunes en classe, je pense que c'est utile d'avoir à un moment donné une photo pour nous aider à comprendre, bon, enfin, pour que l'élève comprenne s'il a bien fait ou mal fait son travail. Donc, oui, l'examen ou l'évaluation, le bulletin fait partie des outils, mais moi, il y a un élément sur lequel je souhaiterais un jour qu'on arrête d'utiliser, c'est la fameuse cote R.
Oh!
Où on amène les gens à être en compétition les uns avec les autres. Alors, ça se joue peut-être un peu plus vers la fin du secondaire, surtout cégep et université, mais si on arrête d'amener les gens... Tu sais, quelque part, je me souviendrai, écoute, c'est une anecdote, quand je faisais ma maîtrise à Sherbrooke, il y a un moment donné où, dans un examen, il y a le professeur sort pour aller aux toilettes, donc il n'y a plus personne qui surveille. Et il y a un étudiant qui est d'origine européenne qui pose la question à sa voisine. Elle dit, c'est quoi la réponse à telle question? Et la voisine devient toute rouge. Et une fois que le professeur revient, ben, l'examen reprend et après elle va déposer plainte pour tentative de plagiat pendant l'examen. Et en fait, l'étudiant a failli être renvoyé du cours, enfin pas du cours, mais carrément du programme. Je suis allé voir le vice-doyen à ce moment-là et je lui ai dit, écoutez, c'est un Européen, notre manière de concevoir les choses est totalement différente. On n'est pas les uns contre les autres. S'il m'avait posé la question, je lui aurais donné la réponse. Parce que la manière dont les étudiants fonctionnent en Europe, c'est une entraide qu'on va se donner, pas une concurrence entre nous. D'accord? Mais avec cette fameuse cote R, qui donne la possibilité d'avoir des bourses, qui donne la possibilité d'entrer dans des programmes contingentés, qui éventuellement va favoriser peut-être un stage plus intéressant qu'un autre au fur et à mesure de l'avancement des cours. Mais veut, veut pas, ça pousse les gens à être les uns contre les autres. C'est cette compétition permanente qui fait en sorte que, oui, c'est moins mal vu de compétitionner d'un point de vue scolaire, Mais quand deux jeunes jouent, c'est qui l'alpha, c'est qui le bêta, c'est qui le delta, ben c'est aussi une compétition en tant que telle. C'est pour ça que je disais tantôt, c'est notre société qui doit réviser sa manière de fonctionner.
Ouais.
Nous devons apprendre à travailler ensemble dans le respect des uns et des autres. Et ça ne veut pas dire qu'on doit laisser des tirs au flanc, comment dire, ne pas contribuer au bien commun. Au contraire, le tir au flanc, comment est-ce qu'on fait pour le ramener dans le wagon? Je reprends l'exemple d'une équipe sportive. Si tu as des jeunes qui peuvent être, par exemple, moi, bon, je vais prendre un exemple concret. À l'époque, je faisais du soccer. Je n'étais pas le meilleur technicien de mon équipe, loin de là, mais j'étais toujours sur le terrain. Pourquoi? Parce que j'abandonnais pas. Qu'on perde ou qu'on gagne, moi, je jouais. Mon plaisir, c'est de jouer. Tant mieux si je gagne. Ce qui veut dire que ça avait un effet motivant pour les meilleurs techniciens que moi, parce qu'il y avait quelqu'un qui, dans l'équipe, maintenait une certaine dynamique. D'accord, pour que l'équipe soit capable de fonctionner. Donc, quelque part, c'est de nouveau, on est au niveau des valeurs, encourager l'effort, encourager l'abnégation, encourager la collaboration, la coopération. Et c'est là qu'on transforme notre société. Mais pour ça, pour la transformer, la société.
Je rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être avec Dr. Joël Mauzé, docteur en neurosciences. On peut toujours te rejoindre sur ton site Internet, Joël, si on a besoin de conférences ou encore d'interventions. joelmauzé.com?
Oui, c'est ça, exactement.
Parfait. On fait une très courte pause et on revient tout de suite. Merci d'être présent sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec. Ce soir, on a le plaisir de passer la soirée en compagnie du docteur en neurosciences, Joël Mauzé. Est-ce qu'on a le droit de t'appeler docteur, Joël?
Ah ben écoute, j'ai un doctorat, je suis docteur en neurosciences de fait.
Parce que je sais qu'en Europe, tous ceux qui ont des doctorats peuvent être appelés docteurs, mais au Québec, il y a comme une genre de chasse gardée. Là, quand on dit docteur, c'est souvent parce que c'est un médecin omnipraticien, exemple, ou quelqu'un qui est dans une autre sphère de la médecine. Mais docteur en neurosciences, ça existe bien et c'est ton titre. Hey, je voulais parler avec toi, je sais pas si c'est ton nouveau bébé, mais tu as l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Tu as annoncé ça sur tes réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est exactement?
En fait, si tu veux, l'Institut du développement de l'enfant et de la famille, je l'ai créé il y a une vingtaine d'années, puis on l'a incorporé il y a 17-18 ans à la demande de l'Université de Sherbrooke, parce que comme j'étais professeur associé avec eux, ils m'avaient demandé que je clarifie un peu mieux mon lien quand je suis plus université versus plus dans mon entreprise en tant que telle. Donc, à la base, c'était une entreprise qui souhaitait faire de l'intervention clinique, de la recherche et de la formation. J'ai essayé de créer en fait un réseau pour développer en fait une manière de collaborer avec différents professionnels parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est concept de médecine intégrative, c'est-à-dire que je n'ai pas la prétention d'être capable de guérir à moi tout seul une personne. Premièrement, la personne qui se guérit, c'est elle-même, c'est la personne qui consulte, mais pour arriver à une certaine guérison, tout au moins améliorer la qualité de vie, la présence d'autres professionnels était pour moi quelque chose d'important. Et puis, donc, il y a eu plusieurs projets qui se sont faits à ce niveau-là. Il y a des réseaux qui se sont créés. Et puis, bon an, mal an, bah, écoute, j'ai donné de plus en plus de place à la formation, ce qui fait que j'avais de moins en moins de place pour faire de la clinique, de moins en moins de place pour maintenir un réseau, de moins en moins de place pour faire de la recherche, comme ce que j'ai voulu faire pendant plusieurs années, ce qui fait en sorte que c'est comme si l'IDEF était devenue un peu une coquille vide, si tu veux. Elle fonctionnait encore, mais c'était pas. Comment dire, il n'y a plus vraiment de vocation. Donc, j'ai vraiment réfléchi, qu'est-ce que je peux apporter? Puis, j'ai fait partie de Fort Jeunesse il y a 25-30 ans avec Martin Koskinen, Jean-François Roberge et d'autres. C'est peut-être des noms qui doivent résonner dans les oreilles des différentes personnes qui nous écoutent.
Ben, Koskinen est le principal conseiller de François Legault actuellement, là. Plusieurs personnes
Oui.
disent, est-ce que c'est François qui gère ou encore c'est Martin Koskinen? On ne sait
C'est
plus.
un excellent duo et je pense que parfois c'est utile d'avoir quelqu'un qui est prêt à être devant les micros et d'autres personnes qui sont plus en arrière pour pouvoir aider et conseiller. Je pense que c'est tellement complexe de gérer les dossiers aujourd'hui. Moi, j'aimerais pas être à la place des ministres. J'ai beaucoup de respect pour eux, que je sois d'accord ou pas d'accord avec certaines décisions qui sont prises. J'ai énormément de respect pour le travail qu'ils font. On se rend pas compte à quel point ils sont engagés dans ce qu'ils font. Certains pour des bonnes raisons, peut-être d'autres pour d'autres moins bonnes raisons, mais ça reste quand même qu'ils sont engagés pour essayer d'améliorer les situations, même si on n'est pas toujours d'accord avec eux. Bref,
Ouais.
mais
Mais
cela dit,
puisque tu me
pendant la
rentres,
pandémie,
ouais, juste une petite intervention, 30 secondes. secondes, puisque tu me lances là-dedans. T'sais. Moi, j'aime bien que le ministre de la Santé soit quelqu'un qui est de la santé, qui a déjà travaillé en théâtre de guerre. J'aime bien que le ministre de l'Éducation soit un ancien professeur ou un ancien directeur ou quelqu'un qui est un spécialiste de l'éducation. J'ai beaucoup de difficultés, moi, à voir quelqu'un qui, je sais pas, moi, parce que la démocratie peut faire ça à un moment donné, quelqu'un qui a étudié comme pour être un avocat et qui devient ministre de la Santé, je me dis tout le temps, mais quelle est sa base, t'sais? C'est quoi sa base? As-tu déjà été en théâtre de guerre? As-tu déjà été dans un hôpital en tant qu'observateur? Est-ce qu'il a déjà jasé avec des docteurs, des infirmiers, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires? T'sais, de les voir dans des champs qui sont pas du tout les leurs, je trouve tout le temps ça particulier, mais je suis un peu d'accord avec toi, tu sais, quand on est un ministre, on se doit de faire des heures et des heures et des heures, puis des fois, ben c'est pas toujours facile, puis ça, faut le comprendre, mais l'idée, quand on se lance en politique puis on fait des promesses, c'est de réaliser ses promesses. Malheureusement, certains politiciens ne réussissent pas à réaliser leurs promesses. Cela dit, je t'ai coupé un peu dans ton élan, je suis
en mais par rapport à ce que tu disais, par rapport aux promesses, je crois que c'est quand on est dans l'opposition ou qu'on est dans une dynamique où on souhaite se faire élire, on a une partie de l'information, on n'a pas toute l'information. Donc parfois, il y a des idées ou des promesses qui se basent sur des idées ou sur des théories qui sont très intéressantes, mais qui, dans le concret, s'articulent beaucoup plus difficilement. Tu vois, c'est bien beau, par exemple, la voiture électrique, mais essaye donc de traverser l'Ontario en voiture électrique, tu n'arriveras pas.
Mais à ce moment-là...
Parce qu'il y a des périodes ou des endroits où, pendant des centaines de kilomètres, tu n'as même pas une pompe à essence.
Ouais. Mais à ce moment-là, Joël, soyons dans l'opposition pendant quelques années, faisons de multitudes de promesses, puis n'en réalisons aucune, puis on va prendre le gouvernement. Je veux dire, on peut pas... Moi, à mes yeux, à moi, quand un politicien prend une promesse ou quand ma conjointe me promet quelque chose ou quand je promets quelque chose à mes enfants, ça doit être retenu. Et si, malheureusement, je dois faire en sorte que je m'excuse parce que ma promesse soit pas réalisée, ben je dois le dire. T'sais, la politique, parfois, surtout quand ça touche l'éducation, la santé, je veux dire, on veut que ça fonctionne bien. Les promesses, c'est des promesses, mais normalement, si ces gens-là se font élire sur des promesses, ils sont supposés les réaliser.
Oui, et puis j'espère que ça reste quand même au cas, mais si je reviens par rapport à l'idée d'avoir un ministre de la Santé qui est docteur, enfin, qui est médecin ou qui est un gestionnaire, moi je vois un ministre comme étant un chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, il vient s'entourer d'excellents musiciens. Il va y avoir des premiers violons, il va y avoir quelqu'un à la timbale, quelqu'un au piano, quelqu'un à la trombone, d'accord? Mais il faut que chacun puisse être là. Donc, on a besoin d'un chef d'orchestre. On n'a pas toujours besoin nécessairement d'avoir quelqu'un qui est représentatif parce que le médecin va avoir un biais. Je me souviens de Mme McCann, qui était une excellente ministre de la Santé. Elle avait une connaissance de gestion, mais sa connaissance de gestion, un jour, elle a dit quelque chose dans une conférence de presse qui lui a été fortement reproché par son ministère et elle avait perdu quelque part le contrôle, entre guillemets, les rênes parce que justement, elle connaissait très bien la gestion des institutions et quand elle a critiqué ça publiquement, ben, c'est moins bien passé. Ce qui fait qu'il y a une grande résistance qui était là dans une période où on n'avait pas besoin de résistance et on avait déjà assez à cause de la pandémie. Donc, elle a demandé en fait à être déchargée de ses fonctions. Puis c'est M. Dubé qui est arrivé. Donc, tu sais, quelque part, ce n'est jamais facile d'être parfois hyper spécialiste. Moi, je ne voudrais pas être ministre, tu vois, parce que mes connaissances sur certains dossiers font en sorte que j'aurais de la difficulté à ne pas les pousser de l'avant. Comme expert, quand je suis consulté, je peux donner mon avis, puis après ça, je lâche prise, ça ne m'appartient plus. Ouais. Ça appartient aux personnes que collectivement nous avons élues. Donc, si j'étais un élu, j'aurais plus de difficultés. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont fait l'effort. Puis, si je reviens par rapport à la santé, il ne faut pas oublier que M. Dubé a quand même deux personnes auprès de lui, dont Sonia Bélanger, qui a été une gestionnaire pendant des années dans les CI3S. Et il a aussi Dr Lionel Carman, qui a été médecin neurologue pendant 30 ans, qui peuvent aussi, tu sais, les adjoints parlementaires qui parfois viennent aussi compléter. Donc, il faut vraiment voir ça plus comme un chef d'orchestre que comme quelqu'un qui devrait avoir nécessairement la science infuse pour répondre à tous les problèmes.
Mais en même temps, Philippe Couillard a déjà été ministre de la Santé, puis il n'a pas tout changé. Il y avait
la même chose pour le docteur Bolduc.
Gaétan Barrette, docteur Bolduc, c'est des docteurs qui sont passés à la santé, puis qui n'ont pas nécessairement tout détruit, mais ils n'ont pas nécessairement amélioré les choses non plus, là. Donc, on était, nous autres, dans l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Est-ce que les services que vous allez offrir, ça va être quoi?
En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est plus nécessairement des services au sens où on l'entendait auparavant, si je continue à donner de la formation, mais ça, c'est une autre entité. J'ai créé une autre entreprise qui s'occupe spécifiquement de la formation, qui est l'Institut de neurosciences et psychologie, psychologie et neurosciences, pardon. Non, mais donc l'IDEF, en fait, c'est devenu un observatoire. L'objectif, c'est d'essayer de réunir différentes personnes autour de moi pour réfléchir à des problèmes de société et faire des propositions, notamment au gouvernement et aux différentes personnes qui ont une part de décision à faire pour pouvoir améliorer les choses. D'ailleurs, il y a deux rapports qui vont être bientôt publiés, hein, qui est en correction orthographique. Il sera probablement disponible d'ici environ 2 semaines, mais m'adresser à la santé mentale des jeunes. Tu sais, tu nous disais tantôt, la pandémie, qu'est-ce qu'elles ont été les bons coups, les moins bons coups? Mais oui, il y a eu des bons coups et des moins bons coups. Je te dirais, un des bons coups qu'on a observé, c'est qu'on a constaté qu'il y avait plus d'adolescents qui étaient en difficulté pendant la pandémie qu'avant la pandémie. On a plus que doublé du nombre d'adolescents en difficulté. On est passé d'environ 30% à 70%. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y avait 30% des jeunes qui ont bien fonctionné pendant la pandémie? Et on s'est rendu compte que c'est la qualité du soutien parental. Donc, d'aider les parents à mieux accompagner les enfants et les ados, ça fait partie de la solution. Or, souvent, on a tendance à sortir le parent de l'équation comme si ce n'était pas une solution ou il ne pouvait pas faire partie de la solution pour les jeunes. Parfois, dans des situations, par exemple, de consommation de drogue, oui, le parent n'est pas nécessairement la meilleure des parties prenantes pour aider le jeune à sortir de son addiction. OK, ça, il y a assez d'études qui le démontrent. Mais dans beaucoup d'autres situations, le parent doit être considéré. Si on revient en fait au monsieur qui malheureusement a explosé pour essayer de protéger son enfant, moi je pense que dans une situation pareille, si le parent se rend là et aurait le goût d'exploser comme ça, la meilleure des choses que vous avez à faire à ce moment-là, c'est retirer l'enfant de l'école pendant 2, 3, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, le temps que ça se calme, le temps que ça se dépose, le temps de recréer quelque chose de différent à l'école. Parfois, le fait d'avoir une mesure aussi drastique que ça, ça ne va blesser personne. D'accord? Mais ça va envoyer un message très clair à tout le monde que ce qui se passe dans la famille ou ce qui se passe à l'école à ce moment-là, ça ne fonctionne pas de la manière dont ça se fait. Souvent, le parent lui-même, il a des traumas. Le parent a vécu de l'intimidation. Donc, si le parent a vécu de l'intimidation et qu'il voit que son enfant vit de l'intimidation, il y a une différence. Oh, est-ce que il essaye de se protéger par rapport à ses propres blessures ou par rapport aux blessures de son enfant? Ou il sait très bien que ce que lui a vécu quand il avait 13, 14 ans et ne veut surtout pas que son jeune vive exactement la même chose. Donc, parfois, de prendre du recul, y compris avec son jeune, ça peut faire partie des choses, des choses à considérer. Parfois, malheureusement, les parents ne sont pas suffisamment outillés. Donc, est-ce qu'on peut mettre en place des ressources psychosociales pour outiller les parents plutôt que de mettre nécessairement ressortir l'enfant de la famille et de la confier dans un centre de DPJ ou un centre jeunesse?
Ouais. Je voulais revenir avec toi sur des choses qu'on a discutées pendant, ça fait plusieurs fois qu'on se jase, toi et moi, depuis plusieurs années même. On parlait des fameux jeux vidéo. Moi, j'ai fait des plages horaires pour mes gars, tu sais, puis ils peuvent jouer le samedi matin, ils ont une heure où ils peuvent jouer aux jeux vidéo, puis le soir, après souper, ils peuvent, entre 6h et 19h, jouer à leurs jeux vidéo la fin de semaine. Et je suis descendu dans la cave, Joël, puis j'ai pensé à toi, je me suis dit, c'est sûr qu'ils m'enverraient à la guillotine, là. J'ai vu mon gars de 7 ans à l'époque, il y a maintenant 8 ans à partir d'aujourd'hui, j'ai vu mon gars de 7 ans avoir la Xbox ouverte. Il y avait son portable où il y avait YouTube d'ouvert, où il écoutait son YouTuber préféré qui parlait du jeu qu'il était en train de jouer. Et il parlait sur, on a un petit cellulaire à la maison, là. Il parlait sur Snapchat à ses amis en même temps. Je me suis dit, il y a quelque chose de beau, là. Il est capable de faire plusieurs choses en même temps, contrairement à son père, qui se concentre juste sur une affaire. Mais d'un autre côté, il était surstimulé. Je me suis dit, quand les lumières vont se fermer, lui, la tête va virer tout bord, tout côté, là.
Et qu'est-ce qui s'est passé quand la lumière s'est fermée?
En fait, il s'est rien passé. J'ai dit à Isaac, là, Isaac, je comprends que je t'ai donné une heure pour les jeux vidéo, mais là, la télé, le YouTube, le cellulaire où tu parles avec tes amis... Mais il semble que papa trouve que c'est trop. Puis là, il a dit, ben, est-ce qu'à deux, je pourrais être correct? Je dis, ben, on pourrait enlever le portable. Est-ce que c'est correct? Il dit, oui, c'est correct. Donc, il a fermé son YouTube. Il a continué à jouer à ses jeux vidéo. Puis, il parlait avec ses amis en même temps sur Snapchat. Mais je trouvais que c'était trop. Puis, quand il a tout fermé après ça, il était calme. Il était correct. Mais je me dis à quel point je nuis pas à mon enfant de lui permettre d'être surstimulé de cette façon-là. Je suis descendu en bas, j'avais l'impression que c'était un stroboscope, là.
Mais tu sais, moi, j'aime beaucoup faire une comparaison, en fait, avec les jeux vidéo par rapport à l'alcool. On ne réagit pas tous de la même manière par rapport à l'alcool. Il y a des
Ouais.
gens comment dire, qui la gèrent bien. Il y a des gens qui, une fois qu'ils ont pris un verre, ils ont beaucoup de difficultés à s'arrêter. Il y a des gens qui, avec un demi-verre de vin, ils sont saouls. Il y en a d'autres qui peuvent peut-être boire une bouteille de vin. C'est pas bon pour leur cerveau ou pour leur corps, mais ils vont être quand même capables de pouvoir avoir une relation calme et sereine avec les gens autour d'eux. Donc, le problème de ce genre comment dire, d'habitude de vie, c'est que ce n'est pas linéaire et que ça dépend de chacune des personnes. Cela dit, on a mis des limites au niveau de l'alcool parce qu'on a voulu protéger les personnes plus vulnérables. Donc, nous avons une discussion, puis Lionel Carman avait démarré la discussion en fait juste avant la pandémie et la première stratégie a été publiée, je pense, si je me souviens bien, en 2021 pour justement essayer de donner un certain cadre beaucoup plus adéquat pour nos jeunes. On a surtout travaillé sur la sédentarisation. Pourquoi ne pas aller plus loin par rapport à l'usage des jeux vidéo? Tout simplement parce qu'on avait dit aux jeunes pendant la pandémie, jouer à des jeux vidéo, ça va sauver des vies. Puis ça aurait été compliqué après pour nous, comme experts ou comme gouvernement, de leur dire après que c'est peut-être pas nécessairement ce qui va être meilleur pour leur cerveau. Donc, la sédentarisation est un problème. Donc, si ce n'est qu'une heure dans la journée, d'accord, ou deux fois une heure si c'est la fin de semaine ou la semaine de relâche, et qu'à côté de ça, le jeune, il va jouer dehors, il va s'occuper, il va faire du vélo, il va faire des culbutes, il va voir ses amis en réel, d'accord, ben, on va avoir un certain équilibre. La sédentarisation sera moins. Mais si on a un jeune qui est à la maison, tu sais, que je reprends l'exemple que tu as donné, qui est une bonne réaction paternelle que tu as eue envers ton garçon, qui n'était pas nécessairement confrontante en termes d'abus, mais qui était, hey, moi je te mets une limite, c'est-à-dire que je t'en permets deux et je te permets pas une troisième source de stimulation. D'accord? Donc tu as donné un cadre, tu as donné une limite, ça a été entendu. Donc, à partir de ce moment-là, d'accord, le jeune est encadré, se sent encadré par son parent et va mieux fonctionner de la même manière que quand il aura 18 ans. J'imagine que les premiers verres de bière que tu vas lui autoriser de boire à la maison, ben, s'il se saoule, tu vas probablement mettre une limite. Tu n'empêcheras peut-être pas qu'il se saoule avec ses copains quand ils seront au cégep, mais au moins à la maison, tu vas lui donner une limite. D'accord? Tu vas dire, écoute, regarde comment tu te comportes quand tu as pris quatre bières. Est-ce que tu as vu à quel point tu deviens désagréable? Est-ce que tu as vu que tu as cassé telle chose? Est-ce que tu as vu que tu as dit des gros mots? D'accord? Donc, tu vas lui faire des reflets pour l'aider à comprendre qu'est-ce que l'alcool, d'accord, peut amener comme transformation de comportement. OK? Nous, notre jeune fille, elle a le droit de conduire une voiture maintenant et de consommer de l'alcool. Mais la question est quand même, c'est que si tu consommes de l'alcool et que tu prends notre voiture, tu dois rester à jeun. C'est une consigne qu'on va lui donner, mais à la maison, tu as le droit de prendre un verre de vin ou une bière. D'accord? Donc, on va quand même continuer à cadrer, d'accord? Même si c'est une jeune adulte. Donc, le parent doit donner des limites. Le parent doit être présent. Alors maintenant, le gros danger, j'aurais envie de dire, pour des jeunes qui sont surstimulés par les jeux vidéo, les réseaux sociaux, TikTok et autres choses, c'est comment maintenir une attention dans une classe. Parce que même si tu as le meilleur des profs devant toi, c'est dur d'être continuellement attentif quand l'extérieur n'est pas en train de te surstimuler.
Exact.
Et c'est ce manque de surstimulation-là, si le jeune ne tripe pas sur le cours, donc il y a une motivation interne, et là, le jeune va être embarqué par lui-même parce qu'il aime son cours, ça, à ce moment-là, ça fait en sorte qu'un jeune va avoir de la difficulté à rester calme. Un jeune peut être sursaturé, et ça peut l'amener, mettons, un jeune qui est en deuxième, troisième, quatrième année primaire, à dévaster toute la classe. Parce qu'à un moment donné, il y a deux fils qui se touchent, parce qu'il est en surcharge mentale. Et il explose, il détruit comment dire, il détruit la classe, comme on l'a vu il y a quelques jours dans le Journal de Montréal. Il y a eu des reportages qui ont été faits justement sur des jeunes qui malheureusement se désorganisaient d'une telle manière que tout cassait. Donc, L'idée, c'est de bien accompagner nos jeunes, c'est de leur donner des limites claires, d'être nous-mêmes en paix avec ce qu'on est d'accord ou ce qu'on n'est pas d'accord. Il y a des parents, des amis de mon fils qui me prennent pour un fou parfois. C'est correct, d'accord? Puis, tu sais, mon gars, il en rigole aussi. Parce que c'est devenu un running gag, parce qu'on a pris du temps pour lui expliquer pourquoi on n'était pas d'accord qu'il passe des heures et des heures sur des jeux vidéo.
Ouais.
Mais moi, je suis à l'aise avec les décisions que je prends. Je suis en cohérence avec ma femme. Donc, ça veut dire que quand on prend des décisions de couple, quand on prend des décisions de parents, eh bien, on est prêt à ce que notre jeune ne soit pas nécessairement d'accord avec nous. On est prêt à ce que notre jeune remette en question la règle qu'on vient de lui donner. Mais comme on est solide, parce qu'on a pris le temps d'y réfléchir, qu'on a pris le temps de peser le pour et le contre, on a nuancé, ajusté la règle qu'on veut donner à nos jeunes,
ouais.
Ben, veut pas, ça fait que notre jeune, à un moment donné, se rend compte que ben, mon parent, il est solide. Mon parent, il est cohérent. Mon parent, ça sert à rien que j'essaye de le manipuler. Il va pas changer d'avis.
Exact. Mais
d'accord?
Ça, j'imagine que les enfants vont s'en rendre un petit peu plus tard. Il nous reste à peu près une minute. Tu sais, au sujet des réseaux sociaux, les jeux vidéo et tout ça, nous, on a des règles à la maison. La semaine, il n'y a pas de jeux vidéo à la maison. C'est juste la fin de semaine pour s'amuser. Donc, vendredi et samedi, ils peuvent... Puis dimanche, le jour, ils peuvent s'amuser avec les jeux vidéo, avec des plages qui ont déjà été établies. Mais oui, nos enfants disent, ben là, mes amis, ils ont le droit de faire ci, le droit de faire ça. Puis quand on parle avec les autres parents qui, eux, permettent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les jeux vidéo, j'entends des gens qui se dédouanent bien souvent en disant, oui, mais tu sais, ils jouent des jeux vidéo, pendant ce temps-là, ils ne font pas des mauvais coups dehors. Ben, il joue à des jeux vidéo, pendant ce temps-là, il prend pas de drogue. Ben, il joue à des jeux vidéo, mais pendant ce temps-là, il fait pas de mal à personne. Ces gens-là se dédouanent de cette façon-là. Mais on va se l'avouer, pour certains parents, les jeux vidéo, c'est une gardienne qui est à la maison pendant que les parents sont là.
Oui, puis je veux dire, nous aussi, on regarde la télévision, on va utiliser notre téléphone cellulaire.
Ah oui.
Parfois, on a difficile à décrocher de notre travail. Donc, l'exemple qu'on va montrer à notre jeune, c'est, ben écoute, amuse-toi avec l'écran, tu sais, ton parent le fait pareil. Donc, d'un autre côté, si nous, on passe du temps avec notre jeune, on va faire du vélo avec lui, on va faire des activités, on fait du ski, on fait, peut-être, on va aller jouer au bowling, on va aller jouer à la pétanque, on fait des activités avec notre jeune, et à partir de ce moment-là, on peut avoir quelque chose de dynamique. Pour ça, il faut se donner le temps et peut-être nous-mêmes de nous organiser, de nous impliquer un peu plus comme parents.
Joël Monzé, docteur en neurosciences, on invite les auditeurs qui t'apprécient à chacun de tes passages à aller sur joelmonzé.com. Tes livres sont encore bien affichés. Là. Moi, j'avais adoré le livre « Médicaments et performances humaines, thérapie ou dopage ». Il y en a plein d'autres qui sont disponibles. Sinon, on peut les avoir dans les librairies aussi.
Oui, en fait, ils sont sur les librairies physiques ou les librairies virtuelles, c'est assez facile. Il y en a qui malheureusement commencent à être sold out, parce que j'ai un de mes éditeurs qui est en train de se réorganiser, puis ne republiera plus certains livres, mais les plus importants, j'ai juste besoin d'être compris, j'ai juste besoin de votre attention, et si on les laissait vivre, ce sont des livres qui sont encore très faciles à avoir, y compris celui dont tu viens de parler, Médicaments et performances humaines, qu'on peut retrouver facilement dans une librairie, ou de le faire commander. Ça ne coûte rien de commander un livre et de se le faire livrer à la librairie du coin. Donc, n'hésitez pas à passer chez votre libraire.
Voilà. Puis pour des conférences aussi, joelmonzé.com. C'est toujours un plaisir, mon ami. Puis on s'en jase dans quelques semaines. On se trouvera quelques sujets à jaser.
Avec grand plaisir.
Salut, merci beaucoup. Nous, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se reparle demain, 11h, pour ce qui est de Marceau.